L'actualité des Alpes du Sud, le variant Omicron représente 99% des dépistages aujourd'hui dans les Hautes-Alpes.
Pourtant, la préfecture décide d'alléger les contraintes sanitaires. Les sourires seront de retour avec la fin du port du masque dans les centres-villes et les centres-stations.
Et les militaires du 4e régiment de chasseurs de Gap devront-ils quitter le Sahel ?
L'opération Barkhane, engagée depuis 2014, va-t-elle s'arrêter face à la montée des tensions entre la France et le Mali ? Le père d'Alexandre Protin, ce militaire gapensé décédé en 2019 sur le terrain, se dit aujourd'hui en colère. Il adresse une lettre ouverte à Assimi Goïta, le chef de la junte malienne.
Et c'est un projet qui arrive à point nommé.
C'est du côté de Cérès, alors que la tempête de ce début de semaine a provoqué sur le territoire basalpin 3000 coupures de courant. Du côté de Cérès, on va enterrer 2500 mètres de câbles électriques pour plus de sécurité.
L'ère gapensaise va vers le zéro artificialisation.
Et surtout, ne plus consommer autant d'espace, deux fois moins. Le schéma du SCOT sera revu.
Et puis les géos d'hiver, c'est parti.
C'est parti aujourd'hui et c'est Lucile Lefebvre qui ouvrira le bal pour les athlètes des Alpes du Sud en snowboard. Côté météo, c'est toujours doux l'après-midi.
Eh oui. Ouais, grand soleil en matinée, hein. Puis l'ensoleillement peut être contrarié par quelques nuages d'altitude l'après-midi sur nos deux départements, mais c'est quand même l'impression de beau temps qui prédomine. Les températures maxi pour nos deux départements de 12 jusqu'à 16 degrés. Le variant Omicron représente donc aujourd'hui quasiment la totalité des cas de Covid dans les Hautes-Alpes.
La préfecture avance le chiffre de 99% des dépistages, un taux d'incidence de 3460 pour 100 000 habitants. On a entamé une décroissance de la circulation du virus sur le territoire. Pourtant, le taux de positivité reste le plus élevé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 39%. Malgré tout, la préfecture décide d'alléger les contraintes sanitaires. Le port du masque lors des marchés de plein air, alimentaires comme non alimentaires, les brocantes, les vides-greniers, les centres-villes et les centres-stations n'est plus obligatoire. Un point sur la vaccination également, 75% de la population alpine a un schéma vaccinal complet. Plus de 2100 créneaux ont été ouverts pour les 5-11 ans dans les centres des enfants qui peuvent être vaccinés aussi par les pharmaciens, les infirmiers ou les sages-femmes. Enfin, sachez que le variant Omicron représente aussi près de 98% des cas positifs dans les Alpes-de-Provence, département où le taux de positivité est de 35%, le taux d'incidence de 3211.
Le mouvement des cheminots des Alpes, décrié par certains, est soutenu par d'autres.
À l'image d'Europe Écologie Les Verts dans les Hautes-Alpes, qui remet la responsabilité de ce mouvement à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour rappel, elle envisage de supprimer 16 postes sur la ligne des Alpes. Le parti politique reproche aussi à Renaud Muselier une communication abusive. Il ne cite pas la gare de la Reine, de Vennes ou de Chorges parmi celles qui restent ouvertes 7 jours sur 7, écrit le parti. Le collectif de l'étoile ferroviaire de Vennes soutient aussi les cheminots et va plus loin en dénonçant la vindicte contre le personnel SNCF qui deviendrait aujourd'hui un bouc émissaire pour cacher les véritables responsabilités. C'est à la région de faire marche arrière. Fin de citation. Autre mouvement dans l'actualité, c'était hier devant les grilles des écoles de Laragne-Montéglin. Les parents d'élèves sont vent debout contre la fusion des écoles maternelles et primaires. Un projet de l'inspection académique qui aurait été décidé sans concertation et qui a reçu le rejet unanime du conseil d'école maternelle réuni lundi. Ce projet de fusion dès la rentrée prochaine impliquerait donc un poste de direction commun avec à terme le risque de fermer des classes. En tout cas, c'est ce que redoute l'association laragnaise de parents d'élèves.
Les militaires gapensés devront-ils se retirer du Mali ? La situation entre Paris et Bamako se crispe.
En l'espace de 2 ans, le pays a connu 2 coups d'état militaire mettant au pouvoir le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Emmanuel Macron avait dénoncé à l'époque un coup d'État dans le coup d'État inacceptable. Depuis, les relations entre les pays se tendent. Paroxysme cette semaine avec la décision du président de la transition de la République du Mali de renvoyer l'ambassadeur français. Inacceptable pour Dominique Protin. Il a perdu son fils Alexandre, militaire au sein du 4e régiment de chasseurs de Gap en 2019. Dans une lettre ouverte, il s'adresse directement à Assimi Goïta, Christophe Laurenceau.
De l'amertume, de la colère, voilà ce que ressent aujourd'hui Dominique Protin.
Moi j'ai perdu un fils, je ne suis pas le seul. Tout ça, pourquoi ? Pourquoi ? Pour entre guillemets, se faire mettre à la porte comme ça, je suis... C'est désolant.
Alexandre avait 33 ans quand il est mort au Mali dans la collision de deux hélicoptères lors de l'opération Barkhane, une opération militaire française débutée en 2014 pour lutter au Sahel contre les groupes islamiques, mais dont on ne sait pas si elle vit ses dernières heures. Dominique Protin ne veut pas juger de la légitimité de cette décision, mais rappelle au colonel Assima Goïta, président de la transition de la République du Mali, les 53 soldats français morts pour assurer la sécurité du pays.
Lui qui se revendique militaire, je veux dire, il a oublié les codes militaires. Si aujourd'hui, grâce à son putsch, il est au pouvoir, c'est parce que nous sommes bien intervenus. Sinon, la République du Mali, elle n'existerait plus. Ce serait une République islamique.
Nous ne sommes pas des envahisseurs, nous n'avons pas été là-haut. Ça, nous a appelé, nous a demandé de l'aide.
Une lettre qu'il veut aussi à destination du gouvernement français.
De se justifier, de dire ce qu'ils envisagent, de s'affirmer avec fermeté et... rappeler aux Maliens, rappeler à ce gouvernement qui n'est pas légitime, pourquoi les choses sont comme ça, qu'est-ce qu'on a fait là-haut, qu'est-ce qu'on a apporté, et où en serait-il aujourd'hui si on n'avait pas intervenu.
Dominique Protin qui devient presque aujourd'hui le porte-parole des familles de ces 53 soldats français tombés au Mali.
Monsieur Macron, Madame Parly, intervenez, faites-nous le point, dites-nous les choses.
Si l'état-major des armées françaises assure que les opérations se déroulent sur le terrain sans entrave avec les forces maliennes, Dominique Protin est resté en contact avec des militaires du 4e régiment de Gap et pour certains, c'est le point d'interrogation.
Et eux, là-haut, ils comprennent plus non plus. Ils sont, entre guillemets, dégoûtés. Ils disent, ils savent pas. Ils sont vraiment perdus. Ils se demandent d'ailleurs ce qu'ils font encore là-haut. Ils se le demandent. C'est ce que encore... J'ai eu un texto il n'y a pas longtemps encore d'un ami d'Alexandre qui est au Mali qui m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on fait là-haut ? Qu'est-ce qu'on fait là-haut ?»
Une situation malienne qui devient aujourd'hui un enjeu présidentiel. Les candidates de droite, Valérie Pécresse et Marine Le Pen, veulent renvoyer l'ambassadeur du Mali de France alors que le poste est vacant depuis 2 ans.
Et un entretien retrouvé dans son intégralité en podcast sur alpe1.com.
La tempête de ce début de semaine a provoqué d'importantes gênes sur le réseau électrique.
Oui, jusqu'à 3000 coupures ont été par exemple recensées dans les Alpes de Provence. Alors ce chantier arrive à point nommé à ses restes. On va enfouir 2500 mètres de câbles électriques basse tension. Un investissement de près de 550 000 euros. Les travaux ont débuté le 24 janvier pour une mise en service qui devrait se faire entre septembre et octobre prochain. Le chantier a deux objectifs, esthétiques tout d'abord avec l'enfouissement de ces câbles, mais surtout un enjeu de sécurité. Robert Gué est président du syndicat d'énergie des Alpes-de-Provence, vice-président du conseil départemental et maire de Mison.
C'est un des projets majeurs du syndicat pour cette année. Vous savez que le syndicat investit donc sur l'ensemble du département environ 7,7 millions d'euros par an. Et ce chantier représente un investissement de 450 661 euros hors taxe. Ce chantier sera donc mené dans le territoire du Largue et de l'Ancrême. Ce projet, donc, c'est un enfouissement de réseaux cuivre et fibre, puisque sont associés aussi à ce chantier la société Orange et XP Fibre pour enfouir les réseaux de télécommunications, mais aussi pour enfouir les réseaux d'éclairage public. Et ça, c'est le syndicat du Largue et de l'Ancrême qui porte le sujet. Donc c'est un investissement global de plus de 800 000 euros. Il fallait mener cet enfouissement à ses restes parce qu'il s'agit de fils nus. Donc les fils nus posent toujours des problèmes de sécurité. En particulier ces derniers temps où il y a eu des grandes tornades de vent, les fils nus, eh bien effectivement, sont beaucoup plus sensibles et on constate donc de nombreux dégâts qui ont été faits sur ces fils nus. C'est aussi l'esthétique. Puis il y a 53 habitations qui vont bénéficier de cette dissimulation de réseau.
Notez que l'enfouissement de ce réseau est cofinancé par le SDE 04 à hauteur de 60% et à hauteur de 40% par Enedis. Concernant la partie éclairage public et télécommunications, elle est financée par le SMEPGT et la commune de Cérest.
Et la copie du SCOT de l'ère Gapençaise contrainte d'être revue.
Le SCOT, c'est quoi ? C'est ce document qui fixe sur environ 20 ans, les grandes orientations de développement et d'aménagement, que ce soit en matière économique, touristique, immobilière ou même agricole, approuvé en 2013 par un syndicat mixte regroupant 83 élus de 4 intercommunalités, il faut aujourd'hui le réviser. Pourquoi ? Eh bien parce que, notamment, Chorges et Bellaffaire ont quitté le SCOT alors que 10 autres communes l'ont intégré, 8 du Haut-Buëch ainsi que Curban et Claret dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une mise à jour bien plus simple que la prise en compte du nouveau schéma régional d'aménagement et de développement durable pour l'égalité des territoires et la loi climat et résilience. Écoutez Benoît Roustan, président du syndicat mixte du SCOT de l'Ergapensaise.
Il y a ce qu'on appelle les PLU, plans locaux d'urbanisme, où on règle l'urbanisme au niveau de la commune. Il y a le SCOT qui essaye d'avoir une cohérence sur un territoire pour que les PLU soient cohérents entre eux. Et au-dessus, il y a, c'est nouveau, le SRADET, qui est le schéma régional pour lequel le SCOT doit être compatible. L'objectif fixé par la loi en 2050, c'est ne plus consommer, ne plus artificialiser des sols si on n'en désartificialise pas d'autres. Il faut équilibrer. C'est le zéro artificialisation nette. Et il va falloir que dans les 10 prochaines années, on divise par deux la consommation de l'espace qu'on a consommé les 10 dernières années. C'est quelque chose qui est difficilement atteignable en milieu rural en particulier, où on n'a pas de friche, où on n'a pas de possibilité de faire des bâtiments en hauteur. Ça va être vraiment compliqué.
Cette démarche qui vient tout juste de démarrer et qui doit durer 3-4 ans associera pleinement les habitants de l'Ergapensaise avec des réunions publiques à l'issue des trois grandes étapes de cette révision, la mise à jour du diagnostic, le nouveau projet politique et l'élaboration du document d'orientation et d'objectifs.
Suivez les Jeux Olympiques d'hiver avec Alpe1.
Et les Jeux Olympiques d'hiver 2022, c'est parti.
Le monde des sports d'hiver aura les yeux rivés vers Pékin jusqu'au 20 février avec la toujours très attendue cérémonie d'ouverture ce vendredi. Même si certaines épreuves de qualification se sont déjà déroulées, les choses sérieuses commencent ce samedi pour nos représentants locaux. Lucille Lefebvre ouvre le bal. La snowboardeuse de Risoul va tenter de se qualifier pour la finale du slopestyle programmée le lendemain. Un dimanche qui sera marqué par le premier temps fort de ces JO avec la descente masculine. Parmi les skieurs au portillon de départ, on retrouvera le briançonnais Nils Allègre qui ne fait pas partie des favoris mais qui compte bien, qui sait créer la surprise.
Un peu de hockey avec un choc à haute altitude pour relancer la machine gapensaise.
Actuellement dans une mauvaise phase, après une défaite en finale de Coupe de France et un dérapage à domicile face aux Aigles de Nice, les Rapaces sont actuellement 6e au classement. Ils s'éloignent du top 4 de la Ligue Magnus. Une victoire serait donc plus que bienvenue ce vendredi lors de la réception des Dragons de Rouen qui restent sur 5 succès consécutif. C'est donc une montagne normande qui se dresse devant les hommes d'Éric Blé dès 20h30 ce soir à l'Alpe Arena. L'Alpe Arena qui pourra à nouveau accueillir tous ses spectateurs sans aucune jauge. 30 minutes plus tôt, les Briançonnais pénétreront sur leur glace de René Froger pour affronter le récent vainqueur de la Coupe de France, les Ducs d'Angers. Une rencontre qui semble déséquilibrée entre la Lanterne Rouge et le Dauphin du championnat, alors que les Diables Rouges ont enfin goûté à la victoire ce mardi contre Mulhouse.
Et les épreuves de Coupe du Monde annulées à Vars.
Ce mercredi, déjà, l'étape de Coupe du Monde de ski de vitesse avait été reportée à hier matin en cause le vent. Eh bien, le comité de course s'est encore réuni hier et les fortes rafales de vent de la veille n'avaient pas permis de remplir les conditions de sécurité pour réaliser des runs à plus de 200 km/h. Rendez-vous le 16 mars prochain à Vars pour la tentative de record du monde de ski de vitesse à l'occasion des Speedmasters.
Et on termine avec Stéphane Tempier qui rejoint l'aventure Rock Rider.
Après une dernière saison plus que compliquée à cause d'une santé fragile, une contamination au Covid-19 et au virus d'Epstein-Barr, le Gapensais veut donner un nouveau souffle à sa fin de carrière. C'est avec cet état d'esprit qu'il rejoint Rock Rider Team Racing, une équipe issue de la maison mère Décathlon, novice sur les paddocks de la Coupe du Monde de VTT. Novice certes, mais ambitieuse pour les prochaines saisons puisque elle a recruté notamment la championne olympique Julie Bressé en tant que co-team manager et donc le haut alpin. Un contrat de 2 ans a été signé par Stéphane Tempier.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.